Bonjour à toutes et à tous. Boker Tov. Jared Kushner rencontre des représentants du Hamas au Caire avant de s'entretenir aujourd'hui avec Benjamin Netanyahu. Israël se prépare à plusieurs jours de combat contre le Hezbollah autour du site stratégique Ali Al-Taher au sud Liban.
Selon le Wall Street Journal, les gardiens de la révolution iranienne ont profité de la calmie avec les États-Unis pour préparer une intensification des attaques. Et enfin, en Belgique, l'incendie historique qui a déjà ravagé 3000 hectares dans les Hauts-de-Fagne depuis vendredi n'est pas encore maîtrisé. Mais grâce à la pluie et à l'immense travail des pompiers, il ne se dirige plus vers l'Allemagne. Jared Kushner est donc en visite au Moyen-Orient. Il rencontre des représentants du Hamas au Caire. C'était hier.
Nous respecterons nos engagements pris dans le plan en 15 points du Conseil de la paix que lorsque le Premier ministre Netanyahou déclarera qu'il soutient ce plan et s'engagera lui-même à en respecter les termes, l'occupant doit être contraint d'accepter ce plan, aurait affirmé plusieurs responsables du Hamas à l'émissaire américain selon un diplomate d'un des pays arabes impliqués dans les discussions. Jared Kushner et le coordinateur en chef du Conseil de la paix, Nikolaï Mladenov, vont s'atteler désormais à convaincre le chef du gouvernement israélien de soutenir leur plan. Les deux hommes doivent s'entretenir avec Benjamin Netanyahou dans la journée. Il sera question de l'acheminement de 600 camions humanitaires supplémentaires dans la banque de Gaza. Le célèbre journaliste israélien Tzvi Reskeli dénonce vivement la rencontre de Jared Kushner avec les dirigeants du Hamas. Selon lui, le simple fait de les recevoir leur donne légitimité et constitue déjà une victoire, je cite, politique pour le Hamas. Il estime qu'Israël doit faire comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu et poursuivre son objectif initial, éliminer le Hamas comme force militaire et politique. Fin de citation.
Jared Kushner qui a tout de même exhorté les représentants du Hamas à entamer leur processus de désarmement.
Et l'émissaire américain s'est engagé auprès du chef du Hamas, Khalil al-Khaya, à faire pression sur Israël afin qu'il respecte à son tour le plan en 15 points, selon un haut responsable de la région. Jared Kushner a exigé de l'organisation terroriste palestinienne qu'elle mette un terme à ses démonstrations de force dans toute la bande de Gaza, notamment au travers du déploiement de membres armés du Hamas dans les rues de Gaza. L'envoyé spécial américain et gendre du président Trump a également exhorté la délégation du Hamas à permettre une transition en douceur avec le nouveau gouvernement technocratique palestinien censé prendre le contrôle de la bande de Gaza. On est revenu sur cette visite de Jared Kushner à 8h45 dans la question du jour avec David Benaïm, spécialiste des États-Unis.
Et plusieurs pays musulmans accusent Israël de faire échouer le plan Trump dans la bande de Gaza.
Parmi eux, la Turquie, le Pakistan, l'Indonésie, l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Israël porte la responsabilité de perturber les efforts de paix à Gaza et dans les territoires palestiniens. Ces positions constituent un rejet direct du plan global, compromettant sa mise en œuvre et sapent fondamentalement les efforts collectifs entrepris pour parvenir à une paix juste et durable, affirme le communiqué conjoint.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est prêt à la guerre contre Israël.
Notre pays ne cherche pas la guerre avec Israël, mais s'il venait à nous attaquer, nous nous défendrons, a déclaré le chef d'État d'Ankara lors d'une interview exclusive accordée à l'émission Al-Mukabala d'Al Jazeera. Nous ne parlons pas de guerre, mais de paix et de réalisation de la paix mondiale, a ajouté Recep Tayyip Erdogan, qui a ajouté que le Hamas remplissait, je cite, ses obligations dans la bande de Gaza. Nous poursuivrons notre aide à Gaza et nous continuerons à influer sur la scène diplomatique pour mettre fin au combat, a affirmé le président turc. Et dans ce contexte, Israël s'inquiète du fait que Donald Trump ait salué dimanche l'accord de défense conclu entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan.
Une inquiétude légitime, hein, alors que le président américain assure y voir une évolution majeure de l'architecture sécuritaire du Moyen-Orient. Sur Truth Social, le président américain a écrit que le pacte en question était une première étape importante, audacieuse et majeure, je cite, estimant qu'elle montre que le Moyen-Orient se rassemble. Signé le 7 août dernier, l'accord prévoit qu'une attaque contre l'un des trois pays sera considérée comme une attaque contre l'ensemble des partenaires. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères affirme que ce mécanisme vise à renforcer la dissuasion collective et la capacité des États signataires à assurer leur propre défense.
L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, le Koweït et Bahreïn jugent la politique de Donald Trump envers l'Iran incohérente, je cite, et coûteuse pour eux.
Sans rompre avec Washington, ces pays cherchent donc à diversifier leurs alliances, notamment peut-être via l'accord de défense entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. Une inquiétude majeure pour Israël, c'est pour ça qu'on vous demande comme question du jour pour demain. Craignez-vous que des pays du Golfe rejoignent l'alliance entre la Turquie le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Israël se préparerait à plusieurs jours de combat contre le Hezbollah au sud Liban.
C'est ce que révèle la chaîne N12 et son journaliste spécialiste des questions de défense, Nir Dvori. Israël insiste pour prendre le contrôle de la crête stratégique Ali Al-Taher, située à proximité de la ville côtière de Nabatieh, où sont retranchés une quarantaine de terroristes du Hezbollah et des officiers et des gardiens de la révolution. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'organisation terroriste chiite libanaise a lancé depuis ce site stratégique des drones à fibre optique contre les forces de Tsahal, positionnés aux alentours. 3 militaires ont été blessés, dont 2 grièvement. Tsahal a riposté en éliminant un haut responsable de l'unité Bader, mais aussi de la division Red One du Hezbollah. L'échelon politique israélien n'attendrait plus que le feu vert américain pour lancer une opération qui pourrait s'avérer décisive contre ce site considéré comme l'un des principaux QG souterrains du Hezbollah. Et selon le Wall Street Journal, les gardiens de la révolution iranien ont justement profité de l'accalmie créée par le mémorandum d'entente avec les États-Unis pour préparer leurs alliés régionaux à une intensification des attaques.
Des conseillers iraniens ont été envoyés en Irak, au Yémen et au Liban pour coordonner les plans avec les milices soutenues par Téhéran, notamment le Hezbollah et les Houthis. L'objectif au Yémen était de préparer une confrontation accrue avec l'Arabie Saoudite en coordination avec des milices irakiennes. Les gardiens de la révolution ont supervisé des envois de missiles, d'armes navales et de lanceurs de drones sur des positions dominant la mer Rouge. Ils ont également fourni aux Houthis des renseignements opérationnels et des listes de cibles saoudiennes. Selon le Wall Street Journal, toujours, Téhéran se prépare à une guerre de longue haleine et ne mise pas sur la diplomatie avec Washington. D'après le journal américain, l'Iran aurait profité de cette accalmie pour reconstituer son arsenal de missiles et de drones, renforcer les gardiens de la révolution islamique et coordonner les missiles régionales. La pression sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et en mer Rouge s'est également intensifiée. Les sites énergétiques du Golfe ont été menacés et les attaques contre des cibles américaines et régionales se sont multipliées. L'objectif de Téhéran est clair, rendre toute frappe contre l'Iran suffisamment coûteuse pour dissuader les États-Unis, Israël et les pays du Golfe de le tenter. Mali et Liel Yalomi, les deux Israéliennes disparues en Autriche, n'ont pas été enlevées. Elles auraient organisé leur propre disparition et fui pour échapper à environ 200 000 shekels de dettes. L'affaire a mobilisé la police, Interpol et d'importants moyens publics pour les retrouver en Argentine. Le scandale en Israël assure que de véritables disparitions comme celle de la jeune Éthiopienne Aymanot Kasso devraient mobiliser plus de forces sécuritaires.
En Belgique, l'incendie historique qui a déjà ravagé 3000 hectares de haute vagne depuis vendredi n'est pas encore maîtrisé malgré l'important dispositif belge et européen déployé dans la région.
500 personnes, 120 véhicules, des avions y compris en provenance des Pays-Bas et de Suède. Les hommes de feu poursuivent leur combat contre les flammes. Selon le bilan établi hier soir, 700 personnes ont dû être évacuées. Le feu a déjà calciné 3000 hectares et le travail des pompiers est difficile. L'incendie ne progresse plus en direction de la frontière allemande ce matin. De faibles pluies, des vents calmes et une forte humidité facilitent enfin le travail des pompiers. Origine accidentelle ou volontaire, les causes de l'incendie ne sont toujours pas connues. Le parquet de Liège a annoncé hier avoir ouvert une enquête.
Plusieurs présidents de partis francophones ont fait part de leurs émotions et appelé à des actions climatiques.
Selon le président du PS, Paul Magnette, cette catastrophe rappelle avec une brutalité particulière la réalité de l'urgence climatique. Le président désengagé va dans le même sens. Yvan Verhofstadt a salué sur X la solidarité citoyenne et européenne, mais appelé à s'adapter pour gagner en efficacité et en veillant à limiter au maximum le réchauffement climatique. À l'inverse de ses homologues, Georges-Louis Boucher ne fait aucun lien entre la catastrophe et le changement climatique. Il ne faut pas oublier, dit-il, que ces incendies sont la conséquence d'individus qui, soit volontairement, soit par négligence, ont démarré ce feu. Le temps de l'enquête arrivera, mais les sanctions et les conséquences devront être exemplaires, a commenté le président du MR sur Facebook, tout en remerciant les services de secours sur le terrain. Un rapport israélien révèle des changements positifs en faveur de l'État hébreu dans les manuels scolaires saoudiens.
Oui, selon un rapport de l'Institut israélien Impact SE, le ministère saoudien de l'éducation a fait retirer de ses manuels scolaires la phrase « Les musulmans n'abandonneront jamais Jérusalem » qui figurait encore dans un manuel destiné aux élèves de première en 2023-2024. Et elle a été entièrement supprimée des éditions suivantes. Autre évolution positive, l'expression « l'ennemi sioniste » a été effacé, aussi encore utilisé dans un manuel d'histoire de 2024-2025 à propos de la guerre de 1973. Elle a été remplacée l'année suivante par l'occupation israélienne, une formulation toujours hostile et qui ne traduit pas une reconnaissance d'Israël, mais qui marque néanmoins une baisse du niveau de confrontation dans le vocabulaire employé. Les cartes scolaires changent également. Dans plusieurs ouvrages, le mot Palestine a été retiré de territoires situés à l'intérieur des frontières reconnues d'Israël. Certaines carte laisse désormais cette zone sans aucune appellation. Ces modifications s'inscrivent dans une réforme plus large de l'enseignement saoudien menée dans le cadre de Vision 2030 portée par le prince héritier Mohammed bin Salman.
La campagne électorale bat déjà son plein en Israël. Le Likoud organise aujourd'hui ses primaires avant le scrutin national du 27 octobre prochain.
Et les bureaux de vote ont ouvert depuis 23 minutes maintenant dans tout le pays pour permettre aux 140 000 membres du parti de droite de choisir les candidats qui figureront sur la liste électorale du parti. Ce scrutin très suivi pourrait fortement influencer la composition du prochain gouvernement. Si le bloc pro-Netanyahou remportait les élections législatives prévues le 27 octobre prochain, les modifications apportées cette année au système à l'initiative du Premier ministre ont réduit le nombre de places disponibles sur la case quasiment la moitié. Des actuels ministres et députés Likoud ne retrouveront pas leur place lors de la prochaine Knesset. Les résultats de ce scrutin permettront également de déterminer ou non le durcissement de la ligne nationaliste de droite observée au sein du parti ces dernières années. Parmi les favoris de ce scrutin interne, les ministres de l'énergie Eli Cohen et de la justice Yariv Levin, le président du Parlement Amir Ohana devrait figurer en bonne position. Miri Regev, ministre des Transports, et la députée Tali Gottlieb se disputeront la place de première femme au sein de la liste. La surprise pourrait être Almog Cohen, transfuge du parti Force Juive d'Itamar Ben-Gvir, qui a indiqué avoir été contacté par plusieurs ministres et députés Likoud pour intégrer les rangs de son parti.
Et l'influenceur arabe israélien Youssef Haddad crée son propre parti pour ses élections à venir.
Israël courageux, c'est le nom choisi par celui qui défend l'État d'Israël sur toutes les scènes de la planète, jusque dans les campus universitaires américains, jusque dans les rues de New York ou dans les podcasts de soutien à la cause palestinienne. Âgé de 41 ans, Youssef Haddad étudie depuis plusieurs semaines déjà différentes options pour se lancer en politique. Son nom avait notamment été évoqué comme possible recrue du Likoud. Il serait désormais en discussion avec le général brigade de réserve Ofer Winter, ancien commandant de la brigade Givati, qui a également occupé le poste de secrétaire militaire au ministère de la Défense. Son parti prévoit notamment la création d'un dispositif permanent de diplomatie publique destiné à défendre la position d'Israël à l'étranger et à combattre les campagnes de désinformation visant le pays. Youssef Haddad a grandi au sein d'une famille arabe chrétienne de Nazareth. Il s'est notamment porté volontaire pour servir dans le Sahel, où il a été commandant. Il y a quelques mois des élections de mi-mandat aux États-Unis, une polémique embarrasse le candidat démocrate au Sénat dans le Michigan, Abdul Al-Sayed. D'anciennes déclarations de sa demi-sœur Iman Abdul Hadi justifiant le 7 octobre refont surface.
Cette professeure à l'Université de Chicago et militante pro-palestinienne avait publié le 7 octobre 2023 un message évoquant un matin de liberté. Elle avait ensuite reproché à Bernie Sanders d'avoir condamné les massacres du 7 octobre sans soutenir, selon elle, les Palestiniens face à leurs oppresseurs, je cite. Abdul Hadi s'en est aussi vivement prise à Joe Biden et Kamala Harris en raison de leur soutien à Israël, réclamant un embargo total américain sur les armes. L'équipe de campagne d'Abdul Sayed tente aujourd'hui de prendre ses distances. Le candidat affirme aimer sa sœur tout en étant en désaccord avec ses positions et sa manière de les exprimer. Mais lui-même défend une position très critique envers Israël. Il demande l'arrêt de l'aide américaine militaire et combat ouvertement l'influence de l'AIPAC. Dans un Michigan électoralement très disputé, son adversaire républicain Mike Rogers pourrait exploiter cette affaire pour convaincre les électeurs juifs de basculer dans son camp. Israël et le Honduras signent un mémorandum d'entente pour renforcer leur coopération en matière de défense.
Le protocole d'accord signé aujourd'hui constitue une étape importante dans le renforcement des relations de défense entre les deux pays et établit un cadre de coopération à long terme fondé sur des intérêts et des valeurs partagées. La délégation hondurienne a été informée des défis sécuritaires et opérationnels auxquels Israël a été confronté ces dernières années, notamment des principaux enseignements tirés de la guerre sur plusieurs fronts et de la gestion des menaces évolutives et émergentes dans la région, ont annoncé dans un communiqué commun le ministère de la Défense, le ministre de la Défense israélien Israël Katz et son homologue hondurien Enrique Rodriguez Burchard. Les deux hommes ont signé leur protocole d'accord lors d'une réunion organisée hier en Israël. Nouveau scandale antisémite en France. Dans les deux Alpes, en Isère, un homme s'est vu insulté par une commerçante qui a refusé de le servir.
Une altercation survenue à la buvette de la Luge d'été des Deux Alpes suscite l'indignation après la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo. La propriétaire a refusé de servir un homme juif et sa famille. Elle affirme la communauté juive, il y en a trop, à un moment donné ça excède les gens. Son interlocuteur lui répond que de tels propos ne peuvent pas être banalisés. Elle est alors défendue par une cliente. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son commerce. Le touriste juif lui rappelle, il y a des lois en France, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Les propos enregistrés et filmés par la victime ont été visionnés par plus de 600 000 internautes qui mettent notamment l'accent sur le regard haineux de la commerçante. La vidéo a attiré l'attention de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français, qui condamne fermement ces propos qui, je cite, n'ont pas de place dans notre République. Il a ordonné l'ouverture d'une enquête par la gendarmerie nationale. De son côté, Aurore Berger, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, indique dans un communiqué avoir échangé avec la préfecture. La commerçante a été auditionnée par la gendarmerie ce week-end. L'antisémitisme et le racisme ne sont pas des opinions, mais des délits, rappelle la ministre. Élie Sultan, la victime de ces propos, a témoigné sur CNews après les condamnations verbales. « Je veux des actes », a-t-il dit. Ce nouvel acte antisémite intervient au lendemain d'une scène similaire survenue dans un supermarché d'Avignon la semaine dernière. Un couple australien de confession juive a été menacé de mort par un Irlandais. « Tu devrais dégager de ma vue avant que je te mette une balle dans la tête », a déclaré l'homme filmé. Il aurait également ajouté « Je suis désolé qu'Adolf Hitler n'ait pas fini le travail ».
Le titre du New York Times sur l'attaque d'une synagogue à New York fait réagir.
Le quotidien américain a choisi de parler d'un homme ayant perturbé un office à la centrale synagogue de Manhattan hier. Derrière cette formulation très mesurée, la réalité est bien différente. Une fidèle a été frappée, un agent de sécurité agressé et des poursuites pour crimes de haine ont été lancées. Larry Montes, 46 ans, est accusé d'avoir fait irruption pendant l'office de Shabbat, frappé une fidèle de 63 ans, craché sur un membre de la sécurité avant de lui donner un coup de tête. Il aurait également endommagé du matériel religieux. Après son arrestation, il a tenu des propos antisémites et expliqué aux policiers que son hostilité envers les Juifs était sa principale motivation. Il est poursuivi pour deux agressions et dégradations de biens qualifiés de crimes de haine. L'incident intervient dans un climat d'inquiétude persistante pour la communauté juive new-yorkaise. Dans une ville dirigée par Zoran Mamdani, la police a renforcé sa présence autour de la centrale synagogue après l'attaque. Les offices ont repris dès le lendemain. L'actrice américaine Hayden Panettiere, connue notamment pour ses rôles dans les séries Heroes et Nashville, est morte à l'âge de 36 ans. Les circonstances exactes de son décès n'ont pas été rendues publiques. Et pour finir sur une note positive, l'économie israélienne se redresse plus vite que prévu après le conflit avec l'Iran.
Ainsi, au deuxième trimestre 2026, le PIB de l'État hébreu a progressé de 3,6% par rapport au trimestre précédent, soit 15,4% en rythme annualisé, après une baisse de 0,6% au premier trimestre. Un résultat nettement supérieur aux prévisions de JP Morgan qui tablait sur une hausse ne dépassant pas 11%. Le rebond est également plus rapide qu'après la précédente confrontation avec l'Iran. Après la guerre de 2025, deux trimestres avaient été nécessaires pour que le PIB dépasse son niveau d'avant-guerre. Cette fois, un seul trimestre a suffi. L'économie israélienne se situe déjà à 3,05% au-dessus de son précédent sommet. En revanche, sur le premier semestre, les dépenses par habitant consacrées notamment à l'alimentation, au logement, à l'électricité et aux services personnels ont reculé de 4,1% en rythme annualisé. Dans le même temps, les achats de biens durables ont progressé de 12,5%, signe notamment d'achats reportés pendant la guerre puis réalisés après les combats. Enfin, une partie importante de la croissance provient d'activités réalisées hors d'Israël par des groupes internationaux.